Bonsoir à toutes et à tous, les deux favoris du tournoi masculin qui déroule. Je parlais bien sûr de Djokovic et Alcaraz. La belle histoire qui se poursuit pour Elina Svitolina. Après sa récente maternité, elle se qualifie pour les quarts de finale. Et puis, on en parlera un petit peu, le tournoi junior qui a débuté. Cédric Pioline, bonsoir.
Bonsoir.
Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti, l'italien. L'un a 20 ans, il est numéro 1 mondial. Musetti, lui, a 21 ans, il est 18e mondial. Le match avait bien débuté pour Musetti, il a été plus compliqué ensuite. Le score 6-3, 6-2, 6-2, 2h08, victoire d'Alcaraz. Vous en avez pensé quoi de ce match, Cédric Pioline?
Écoutez, j'ai eu beaucoup de pensées pendant deux jeux, puisque l'italien a mené 2-0. Et puis, vous venez d'annoncer le score, 6-2, 6-2, 6-3. Écoutez, moi, cet Espagnol de 20 ans, moi, il commence à me faire peur quand je le vois. Là. Il me fait peur, je suis dans la tribune et il frappe tellement fort en coup droit, en revers. Il est tellement rapide. En plus, il a du toucher. Enfin, c'est un vrai bonheur, vous avez compris, vous l'aurez compris, de le regarder jouer. Et on se demande qui est-ce qui va pouvoir le challenger. Voilà, ce duel, cette demi-finale avec Djokovic est en train de se rapprocher à grands pas et on a hâte.
Stefanos Tsitsipas, lui, joue en ce moment. On va aller voir Cédric Chasseur dans un instant. Mais pour revenir à cette victoire, 2h08, 6-3, 6-2, 6-2. C'était le même score un peu plus tôt, 6-3, 6-2, 6-2, 1h57 pour Djokovic face à un Péruvien, 94e mondial, qui n'avait jamais gagné un match en Grand Chelem. Et la marche était un peu haute pour ce joueur péruvien, Juan Pablo Varillas.
Oui, trop haute. D'abord, il est arrivé en huitième de finale, à mon avis, avec un réservoir d'essence qui était bien entamé. Trois matchs en 5-7, une découverte du court central, un Djokovic en face de lui. On sait tous que cette fin de première semaine et ce passage-là, c'est le moment où ce type de joueur enclenche une vitesse supérieure. Et je crois qu'il n'a même pas eu vraiment besoin, hein, Djokovic. Il a déroulé, il a été en contrôle du match du début à la fin. Et surtout, il a sauvé de l'énergie en vue de cette dernière ligne droite de la deuxième semaine.
Avec un record pour lui, c'est le 17e quart de finale qu'il atteint à Roland-Garros. C'est un de plus que Rafael Nadal.
Oui, quand même. Ouais, quand même. De toute façon, ils sont dans leur duel à distance. Maintenant, je ne pense pas que c'est cela qui restera sur leur ligne de palmarès. Mais en tout cas, d'essayer d'accrocher son 23e titre du Grand Chelem et de passer une longueur devant l'Espagne, avec évidemment tous les autres tournois qui arrivent cette saison, Wimbledon et l'US Open, avec un Nadal qui a priori est à out pour l'ensemble de la saison.
Oui, il s'est fait opérer vendredi soir, il est gêné au niveau de la hanche, hein, et de la cuisse. Il a une opération à Barcelone, le médecin qui le suit depuis son adolescence a donné des nouvelles. Il faut compter 5 mois environ ce qui veut dire que peut-être qu'il sera là pour la Coupe Davis en novembre et encore, voilà. Donc Rafael Nadal, l'opération s'est bien passée, mais la convalescence sera longue. Avant d'aller retrouver donc Cédric Chasseur, comme promis, je propose d'écouter la réaction sur le court central de Novak Djokovic. Le public, et c'est pas tout le temps le cas, était clairement en faveur du Serbe.
Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui et pour le soutien. Vous êtes fait quelque chose de très très belle pour moi, donc merci beaucoup. Je sens cette énergie positive. Merci.
Voilà, il a commencé l'interview d'après-match, on ne lui posait pas la question, mais il a tenu un Novak Djokovic à remercier le public. On sait que c'est toujours un peu « je t'aime moi non plus » avec le public français.
Oui, il y a un petit peu de ça. Alors bon, il faut aussi souligner que le public qui était présent hier, avant-hier à Roland-Garros n'est pas forcément le même aujourd'hui. Les gens, enfin ça change, il y a un renouvellement, mais oui, il se dit que probablement il en aura besoin dans des matchs de plus en plus difficiles qui vont arriver. C'est mieux d'avoir le public pour soi, même si Djokovic a souvent aussi tiré de l'énergie d'un public un petit peu hostile. Mais bon, c'est quand même plus agréable sur le fond.
Malmené en début de match par un Italien, Lorenzo Sonego, Karen Khachanov, le Russe, lui, 11e mondial, est parvenu à inverser la tendance pour l'emporter en 4 manches, qui nous fait donc 3 qualifiés déjà aujourd'hui pour les quarts de finale. Et puis là, il y a un match en ce moment, Cédric Chasseur, un joueur grec, Tsitsipas, ancien finaliste à Roland-Garros, qui est opposé à un joueur issu, je crois, des qualifications.
Tout à fait, l'Autrichien Sébastien Hoffner qui affronte Stefanos Tsitsipas sur le Suzanne Lenglen. Hoffner qui fait mieux que de la figuration face à Tsitsipas dans ce huitième de finale parce que c'était le premier à avoir breaké dans cette rencontre. Break qui a été ensuite effacé par Stefanos Tsitsipas, la tête de série numéro 5. 4-3 dans la première manche. Et l'Autrichien Hoffner qui va servir dans quelques instants pour la suite de ce match, pour rester au contact du grec, évidemment favori de cette rencontre. Mais Hoffner qui avait connu les joies d'un troisième tour seulement à Wimbledon, qui n'avait jamais passé le premier tour à Roland-Garros, eh bien fait mieux que se défendre pour l'instant sur ce cours Suzanne Lenglen.
Ouais, Cédric Chasseur, après il y aura la fin des matchs sur le cours central avec la session de soirée et un match féminin.
Oui, match de session nuit, la première fois à Roland-Garros cette année que le tennis féminin est à l'honneur avec un duel entre l'américaine Sloane Stephens et Arina Sabalenka, la biélorusse tête de série numéro 2. Un match qui a fait beaucoup parler dès l'annonce de la programmation hier. Certains billets ont largement été revendus sur le site de Roland-Garros. On verra, la question c'est de savoir un peu le nombre de spectateurs qui sont présents ce soir dans l'enceinte du cours Philippe Châtrier.
Merci Cédric Chasseur. Et Amélie Mauresmo, la directrice générale, a fait un petit point aujourd'hui, un bilan. Et elle expliquait à propos de ces sessions nocturnes, parce qu'on lui a posé la question, il a fallu attendre une semaine pour qu'il y en ait une. Elle tenait compte, elle l'a toujours dit, de l'affiche. Et puis elle rappelle que si on regarde l'ensemble de la journée, il y a deux simples messieurs et deux simples dames. Et qu'effectivement, si vous avez un match comme celui d'hier, sur le central l'après-midi avec Fiantec qui fait 6-0, les spectateurs, alors ça c'est pas, elle l'a pas dit Amélie Mauresmo, mais c'est moi qui me permet de faire cette petite parenthèse, les spectateurs, hein, Cédric Pioline, forcément vont être un peu sur leur faim si le match dure 50 minutes et qu'ils ont payé pour une session de soirée.
Oui, complètement, et c'est vrai que le positionnement d'Amélie Mauresmo en tant que directrice du tournoi est très clair, c'est la qualité de l'affiche. Il ne s'agit pas de faire des quotas en disant que parce qu'on met un et d'avoir la parité là-dessus, un match masculin égale un match féminin dans la programmation, puisqu'il y a 12 sessions de soirée, donc 6 et 6, mais que ça sera sur la qualité de l'affiche. Et là, effectivement, sur le papier, il y a quelque chose qui est intéressant. On ne peut pas imaginer que les gens qui payent quand même des prix relativement importants pour venir à Roland-Garros, et comme vous l'avez dit, un 6-0-6-0 en moins d'une heure avec un match à sens unique, les gens aussi viennent voir du spectacle et ils viennent ressentir, ils veulent avoir de l'émotion et vivre un beau moment de sport, donc l'affiche est déterminante.
Et ça rejoint le débat, je me souviens qu'on avait déjà eu l'année dernière et que vous aurez peut-être de nouveau aussi ce soir dans Europe 1 Sport avec Lionel Rosso, le débat, savoir est-ce qu'il faut des matchs également 5-7 pour ces dames, parce que ça veut dire que ça durerait plus longtemps pour les spectateurs.
Oui, mais bon, comme vous l'avez dit, l'exemple d'hier, il est parlant, 6-0, 6-0, est-ce qu'on rajoute un 6-0 ou un 6-1, voyez, et de 51 minutes, on passerait à 1h20 ou 1h25. Sur le fond, ça ne change pas grand-chose, c'est pas uniquement la durée d'un match, c'est également le contenu d'un match, même si évidemment on ne peut pas contrôler la qualité du jeu qui sera produite, mais en tout cas il faut qu'il y ait une opposition et qu'il y ait du spectacle, du jeu tout simplement.
Chez cette dame, il y a du spectacle hein, quand même aujourd'hui. Elise Mertens, la Belge, qui menait 1-7-0 et menacée de double breaker Anastasia Pavlyuchenkova, la Russe, dans le deuxième set, a vu le cours du match s'inverser. Défaite de la Belge en 3-7 et plus de 3 heures de match, hein, ce qui en fait une des parties féminines les plus longues de ce Roland-Garros. Pavlyuchenkova, je disais, joueuse russe, qui se qualifie donc pour les quarts de finale. Elle a déjà été finaliste à Roland-Garros chez les seniors, finaliste chez les juniors et à Europe 1. Elle a parlé, parce qu'elle parle très bien français, elle a expliqué pourquoi elle était à ce point attaché à Roland-Garros.
C'est vrai, j'ai une relation spéciale avec Roland-Garros depuis junior. J'aime beaucoup jouer ici, j'aime beaucoup le cours central, j'aime le terre battue, en vrai, j'aime parce que je pense qu'avec mon jeu, je me sens assez libre sur le terrain parce que je suis capable de faire des amortis, monter au filet, jouer un peu plus haut, donc il y a beaucoup de variété, donc ça me plaît.
Voilà, Pavlyuchenkova qui se remet d'une blessure à un genou qu'il avait quasiment toute la saison 2022 écarté des cours. Elle pointe au-delà de la 300e place mondiale, mais là aussi, Cédric Pioline, c'est pas significatif de son réel niveau de jeu.
Non, bien sûr, elle a joué ici avec son classement protégé qui lui permet d'avoir un certain nombre de tournois. Elle rentre avec son ancien classement dans le tableau final et c'est une joueuse d'expérience maintenant et on est content de la voir revenir à ce niveau parce qu'elle est fort sympathique. Et puis, comme elle l'a expliqué avec beaucoup de précision, c'est aussi grâce à son jeu varié, plein de variations, qu'elle est une très bonne joueuse et on a plaisir à la voir sur le court.
Il y en a une aussi qui a un classement protégé, c'est Elina Svitolina, l'Ukrainienne. L'année dernière, il y avait son adversaire du soir, Daria Kasatkina, la Russe numéro 9 mondiale, qui avait été demi-finaliste à Roland-Garros. Elina Svitolina ne jouait pas et pour cause, elle était enceinte. Le papa s'appelle, on peut le dire, c'est connu, c'est Gaël Monfils. On peut même donner le prénom de la petite fille, Sky. Elle est née en fin d'année et là, elle a repris en avril le circuit. Elle a gagné à Strasbourg avant d'arriver à Roland-Garros. Et là, la voici, Svitolina, en quart de finale. C'est quand même assez incroyable. Hein.
Ah bah, on peut raisonnablement se dire que très rapidement, elle n'aura plus besoin d'actionner son classement protégé parce que là, en deux tournois, elle fait quasiment, enfin pour l'instant, toujours série en cours à Roland-Garros, carton plein, avec une victoire à Strasbourg. Et puis là, un quart de finale. Donc, elle va déjà se retrouver aux alentours de la 70e place. Peut-être mieux à venir. Et c'est vrai que c'est incroyable de se dire que aussi rapidement, 7 mois, 8 mois après l'accouchement, elle revient déjà à ce niveau. Elle a dû travailler énormément, je pense, pour se remettre encore en forme physiquement. Et avec son expérience, ça fait le reste. Donc, c'est impressionnant. Et puis, peut-être qu'elle va devenir encore une meilleure joueuse que lorsqu'elle était pas encore mariée et mère de famille.
Ouais, elle était troisième mondiale à son meilleur niveau, Svitolina. Et elle racontait, vous disiez, ça semble très rapide, mais pour elle, ça lui semble une éternité, l'accouchement et la durée qu'il y a eu entre son accouchement et son retour sur le circuit. Il y avait en tribune un Gaël Monfils, lui qui se remet de ses soucis de poignet, qui était en tribune pour la soutenir. Il n'y a pas eu non plus de poignée de main entre Kasatkina, la Russe, et Svitolina, l'Ukraine. Ils évitent de se donner des poignées de main en raison du conflit entre les Russes et les Ukrainiens, même si son adversaire est une adversaire assez particulière parce qu'elle a pris fait et cause contre le gouvernement de Poutine, elle a fait son coming out, elle vit en Espagne et elle est un petit peu en marge de cette société russe. Voilà, je referme la parenthèse là-dessus. Pour vous signaler aussi que la Tchèque Karolina Murova s'est qualifiée pour l'écart en s'imposant, alors là sans trembler, face à, tiens, encore une Russe, Elina Avanessian, 6-4, 6-3. On commence, voilà, Cédric Pioline à y voir un peu plus clair sur ce que va être, forcément, plus on avance dans le tournoi, sur ce que vont être les quarts de finale.
Oui, bien sûr, on arrive là, ça y est, dans cette, encore une fois, dans cette deuxième semaine, ça s'éclaircit de plus en plus, on voit des joueuses qui sont en forme et des joueuses qu'on n'attendait pas forcément, comme Svitolina, on vient d'en parler, qui, avant Strasbourg, elle avait repris il n'y a pas très très longtemps, elle est en forme, et donc c'est vrai que ça augure de quand même de belles batailles, même si cette partie de tableau, elle est peut-être un petit peu plus ouverte que la partie de Świątek.
Murova, la Tchèque, qui affrontera donc en quart de finale Pavlyuchenkova et puis Svitolina, on ne sait pas encore, elle affrontera la vainqueur du match entre Sabalenka et Stéphane ce soir. Autrement dit, ça ne sera pas facile pour Svitolina qui a donc battu Kasatkina, la Russe, aujourd'hui. Il y a le tournoi, j'en parlais, on va en parler très récemment avant de conclure, Junior qui a débuté. Alors c'est passé pour GA, l'un des Français considéré comme une des principales chances chez les jeunes d'aller loin dans ce tournoi Junior, Arthur Géa, et puis c'est fini en revanche pour Daphné Mpetchi-Péricard. Alors je voulais qu'on en parle parce qu'elle a 14 ans, figurez-vous. Elle avait été invitée à disputer les qualifications chez les seniors, elle a fait un petit tour. Là, elle a fait, tiens, il y a Gaël Monfils qui passe juste devant le studio et qui vous fait coucou, Cédric Pioline, devant le studio d'Europe 1. Et il y a donc Daphné Mpetchi-Péricard. Les qualifications, elle les a faites, ça n'a pas été très loin. Elle a été ensuite premier tour, elle a perdu, mais 14 ans, c'est très très jeune.
14 ans, c'est extrêmement précoce, même si on a aussi un exemple finalement d'une vieille, Andreeva, qui a 16 ans, qui va rentrer dans les 100 premières mondiales et qui a perdu au troisième tour ici. C'est assez impressionnant, mais c'est vrai que chez les filles, il peut y avoir un petit peu plus de précocité que chez les garçons. En tout cas, on voit clairement des jeunes filles qui sont d'une certaine manière programmées pour devenir des championnes. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, c'est l'apprentissage de ces jeunes filles. Elles passent encore par les juniors. Elles commencent à faire un peu des qualifs pour voir ce que c'est que le très haut niveau et de voir quelles sont les pistes de travail et l'intensité qu'il faut mettre pour devenir une joueuse professionnelle.
Ah, Daphné Petit-Péricard, je l'ai rencontrée très rapidement. Elle me disait qu'effectivement, il fallait qu'elle revienne plus forte l'année prochaine et elle était encadrée. Il y avait sa maman qui était là, il y a son frère aussi, Giovanni, qui joue. Voilà, c'est fini, service gagnant. On se retrouve demain à la même heure, Cédric Pioli, mais vous allez rester ici parce que vous allez prolonger avec Lionel Rosso. À demain nous concernant, Cédric.
L'élite du tennis mondial est sur Europe 1.